Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, la charité, comme vous le savez, l'amour de Dieu, doit s'étendre à tous les hommes. Elle est, comme on dit, universelle. Elle doit bien sûr s'étendre à tous ceux qui vivent actuellement avec nous sur la terre, et plus particulièrement à tous les membres de l'Église catholique, donc l'Église militante, puisqu'ils sont ici-bas, ceux qui luttent pour leur salut. À tout cela, nous devons souhaiter, et dans la mesure du possible, contribuer à leur procurer le salut de leur âme et aussi la santé de leur corps, dans la mesure où c'est utile pour leur salut. Mais notre charité va plus loin encore, elle s'étend jusque dans l'au-delà. Par rapport à l'Église triomphante, donc les âmes des bienheureux qui jouissent de la vision béatifique au ciel, nous devons nous réjouir déjà de leur bonheur et aussi manifester notre confiance envers eux, les honorer par nos prières et par les fêtes que l'Église institue pour honorer ces saints justement. C'est un acte de charité de se réjouir de ceux qui se réjouissent en Dieu. Mais aussi, et ce sera là l'objet de ce sermon, nous devons prier pour soulager les âmes de l'Église souffrante, les âmes du purgatoire. Ce mois de novembre, donc vous le savez, est spécialement institué pour nous acquitter d'une manière plus particulière de ce devoir, et donc c'est important de prendre quelques instants maintenant pour connaître davantage ce lieu du purgatoire, ces moyens institués par l'Église pour les secourir. Et tout d'abord, il est important de se rappeler contre l'hérésie protestante, qui est d'ailleurs plus ou moins infiltrée dans l'Église conciliaire, que l'existence du purgatoire est un dogme de notre foi. Déjà, la Sainte Écriture nous le dit. Dans la messe du 2 novembre, on lit à l'épître, l'Église nous fait lire, dans l'épître de l'une de ses messes, ce beau passage tiré de l'Ancien Testament. On y voit le fidèle Judas Maccabée, après une très grande bataille, se rendre compte qu'il se trouve sur le corps de plusieurs Juifs tués au cours du combat, qu'il y avait sur eux plusieurs amulettes et des statuettes d'idoles. Ces Juifs les avaient pris non pas pour les adorer, parce qu'alors ils auraient mérité l'enfer, mais ils voulaient les faire fondre pour en récupérer le métal, souvent précieux. C'était un péché parce qu'ils avaient ordre de prendre ces idoles sur place, de les détruire et de n'en rien garder, parce que ce métal était comme contaminé par l'usage idolâtrique qu'on en avait fait. Il y avait donc péché, mais péché véniel. Alors, Judas Maccabée fit faire une grande collecte. Il envoya la somme récoltée au temple de Jérusalem pour faire accomplir des sacrifices expiatoires pour le repos des âmes de ses soldats. Ce qu'il fit, ajoute la Sainte Écriture, avec une intention pieuse et bonne. Ce qui revient à approuver donc ce dogme de l'existence du purgatoire. Nous y croyons d'ailleurs aussi à ce dogme parce que l'Église catholique nous la propose, nous l'enseigne, notamment dans plusieurs de ses déclarations solennelles. C'est par exemple le Concile de Trente qui dit ceci: Comme l'Église catholique, instruite par l'Esprit Saint, a, d'après les saintes lettres et l'antique tradition des pères, enseigné dans les saints conciles et en dernier lieu dans ce concile œcuménique qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont détenues sont aidées par les suffrages des fidèles et surtout par le précieux sacrifice de l'autel, le Saint-Concile ordonne aux évêques de veiller avec soin à ce que la doctrine sur le purgatoire soit crue et maintenue par les fidèles, enseignée et prêchée partout. Quant à la nature du purgatoire, donc ce qu'est le purgatoire, vous savez que c'est un lieu de souffrance où les âmes mortes en état de grâce, mais n'ayant pas encore expié tous leurs péchés, achèvent de se purifier dans la souffrance avant d'entrer au ciel. Mais sur la nature de ces souffrances, eh bien, c'est plus difficile à comprendre parce que ces âmes n'ont pas de corps. Elles sont mortes, elles ont été séparées de leur corps, et alors, elles ne souffrent évidemment pas comme nous, tout à fait comme nous. Pour nous aider à comprendre et aussi à compatir à ces souffrances, de ces âmes du purgatoire, l'enseignement de l'Église distingue deux peines, deux types de souffrances, qu'on appelle la peine du don et la peine des sens. Chez les damnés, donc pas les âmes du purgatoire, mais les damnés, ceux qui sont en enfer, la peine du don consiste en la privation définitive, éternelle, de la vision béatifique. Leur souffrance est causée, d'une part, par leur haine de Dieu, qui les exclut donc du ciel, et d'autre part, il y a dans leur nature, donc, une ordination fondamentale qui reste vers Dieu leur Créateur. Et ces deux tendances absolument contraires déchirent leur âme et leur causent des souffrances qu'on ne peut pas décrire. Les mots humains sont absolument impuissants à nous donner une idée des tourments horribles causés par cette peine du don, par ce déchirement intérieur. Chez les âmes du purgatoire, c'est un peu différent. La peine du don consiste également en la privation de la vision béatifique, mais cette fois-ci, elle est temporaire. De plus, les âmes du purgatoire ont en elles la charité. Elles le savent. Elles sont absolument certaines aussi qu'un jour, elles vont rentrer au ciel dans la vision béatifique, et cela les console. Et même leur charité atteint un degré absolument immense, incomparable, parce qu'en fait, elle n'est plus comme engourdie par les liens de la chair qui est blessée par le péché originel. Et c'est à cause de cela que leur charité a une impétuosité, une force inimaginable, qu'on ne peut pas se représenter. Mais à vrai dire, c'est cet amour même de Dieu qui sera la cause de leur souffrance, parce qu'elle leur donne un très vif désir d'aller contempler Dieu au ciel, dans la vision de gloire, et en même temps, elles sont momentanément retenues dans les feux du purgatoire à cause de leur péché qui n'est pas encore entièrement expié. Il y a donc là aussi un véritable déchirement très douloureux qui est même la peine principale du purgatoire, qui est supérieure à la peine des sens, la peine du feu. Cette peine-là, la peine du don, va expier le manque d'amour qu'elles ont eu ici-bas. Dans tout péché, il y a cet aspect d'une négligence, ou dans le cas du péché mortel, d'un rejet de l'amour de Dieu. Et par conséquent, ça doit être expié. Ce sera pour, si elles sont mortes en état de grâce, ce sera la peine du don qui le fera. Et puis, il faut remarquer aussi qu'elles ont un très grand remords d'avoir offensé Dieu qui est si bon. Elles voient la bonté de Dieu d'une manière particulière et ça leur cause des remords tout à fait immenses. Mais dans tout péché, il n'y a pas seulement le manque d'amour pour Dieu, il y a aussi un attachement désordonné à une créature, une certaine recherche indue d'un plaisir. C'est à cause de cela, d'ailleurs, que les hommes pêchent. Alors, cela devra être expié également. Ce sera la peine des sens. Elle consiste dans un feu purificatoire qui ne brûle pas leur corps, puisqu'elles ne l'ont plus, elles sont séparées de leur corps, mais qui atteint l'âme dans la racine même de sa sensibilité. Évidemment, c'est un mode de souffrance qui nous reste très mystérieux, parce que nous n'expérimentons absolument rien de comparable, mais plusieurs apparitions des âmes du purgatoire viennent confirmer l'extrême peine causée par ce feu. Un jour, le vénérable Stanislas de Coxart, un religieux dominicain de l'ordre des frères prêcheurs, vit devant lui apparaître une âme du purgatoire environnée de flammes et poussant des cris déchirants. Ému de pitié, le saint religieux lui demanda une image qui l'aiderait à comprendre un peu ses souffrances. Et l'âme lui répondit, « Tu me demandes une comparaison. Eh bien, sache que le feu de la terre est comme un vent rafraîchissant à comparer des feux qui me dévorent actuellement. » Et ce disant, l'âme étendit sa main, ou son apparence de main, et une goutte de sueur tomba sur la main du religieux, du vénérable Stanislas. Il en ressentit une douleur si intense et si vive qu'il poussa un grand cri et tomba par terre sans connaissance. Les autres dominicains accoururent en l'entendant et eurent beaucoup de mal à le ramener à lui. Et ensuite, toute sa vie, le vénérable Stanislas continua à souffrir de cette seule goutte de sueur. Ce qui nous aide à comprendre un peu ce que ces âmes souffrent. Cette compréhension, cette certaine idée qu'on peut se faire de ces souffrances, qu'on ne peut pas les comprendre tout à fait, ça reste un mystère, bien doit nous porter à avoir pitié de ces âmes et à intercéder pour elle. Sinon, cela ne sert à rien, évidemment. On peut indiquer deux moyens, il y en a d'autres, mais notamment il y a la prière et aussi l'acquisition des indulgences. Pour ce qui est de la prière, eh bien, il faut remarquer, comme le dit saint Paul, que la piété est utile à tout, absolument tout, parce qu'on peut... On peut tout obtenir, tout ce qu'il y a de bien de Dieu. Mais ici, tout particulièrement, la prière est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de soulager ses âmes. Parce qu'on ne peut pas les soulager comme on peut soulager notre prochain, par exemple par les œuvres de miséricorde corporelle, quand on visite quelqu'un, quand on soigne un malade, ainsi de suite. Il n'y a que la prière qui puisse les soulager. Et il faut remarquer ici que notre prière a un certain aspect infaillible. Parce que lorsqu'on prie pour le prochain, lorsqu'il vit encore, bien parfois notre prière se trouve empêchée par cette personne pour laquelle on prie. Par exemple, si on prie pour la conversion d'un pécheur qui reste absolument attaché à son vice, à son péché, eh bien notre prière se trouve empêcher. Évidemment, en continuant à prier avec beaucoup de persévérance, un peu comme Sainte Monique vis-à-vis de Saint Augustin, on pourra finir par briser cet obstacle. Mais enfin, en attendant, notre prière rencontre un obstacle. Pour une âme du purgatoire, évidemment, il n'en est pas ainsi, puisqu'elle ne désire rien de plus que d'être soulagée et délivrée de ses flammes, et donc pas en elle d'obstacle. Alors, nos prières auront une efficacité toute particulière. Tout en remarquant avec saint Augustin que nos suffrages, d'ailleurs c'est le cas aussi pour les indulgences et pour les messes qu'on fait dire pour les âmes du purgatoire, dépendent en définitive de la libre volonté de Dieu qui accorde à telle ou telle âme selon ce qu'elle a mérité ici-bas. Il y a certaines âmes qui ont mérité d'une manière plus particulière d'être soulagées au purgatoire. Par exemple, si elles ont beaucoup prié pour les âmes du purgatoire, bien une fois qu'elles y seront, les prières qui sont appliquées pour les âmes du purgatoire sont plus efficaces sur elles. Mais enfin, dans tous les cas, nos prières sont efficaces. Et puis, il y a aussi les indulgences. Les indulgences, Qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, il y a un peu des erreurs qui peuvent circuler sur ce sujet. Déjà, comment est-ce qu'elles sont construites? Comment se fait-il que l'Église puisse accorder des indulgences? Eh bien, c'est un trésor qui a été constitué par les souffrances d'abord de notre Seigneur, qui a expié d'une manière absolument surabondante et infinie, en fait, tous les péchés des hommes. Donc, il a mérité la rémission de tous les péchés, dans la mesure où les âmes s'approchent de lui. Et dans une mesure secondaire et subordonnée à notre Seigneur, il y a aussi toutes les souffrances offertes par Notre-Dame, par les saints, donc qui vont constituer ce trésor absolument inépuisable dont l'Église peut disposer, notamment pour les âmes du purgatoire. Lorsqu'on voit dans les prières, par exemple, 300 jours accordés, si on récite telle prière, à quoi correspondent ces 300 jours? Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas d'une remise de 300 jours au purgatoire, un peu comme un juge pourrait remettre, je ne sais pas, un an à tel prisonnier parce qu'il se comporte bien en prison. Non, c'est un peu différent. Les jours qui sont donnés, donc dans ces prières accordées par les indulgences, correspondent en fait à des jours de pénitence selon l'ancienne discipline de l'Église. Autrefois, certains péchés, notamment les péchés publics, méritaient, attiraient aux pénitents un certain nombre de jours de pénitence, bon, qui étaient très sévères, qui étaient souvent au pain et à l'eau, avec des jeûnes très durs. Et historiquement, eh bien, par les indulgences, ce pénitent pouvait obtenir la remise d'un certain nombre de jours de pénitence qui étaient compensés grâce à ce trésor inépuisable qui est dans les mains de l'Église. Alors lorsqu'on obtient des indulgences, eh bien, ça ne correspond pas exactement en nombre de jours à ce que les âmes du purgatoire souffriront en moins. Même si, évidemment, c'est proportionnel, si on gagne une indulgence de 3 ans, ce sera plus efficace qu'une indulgence de 300 jours. Mais enfin, c'est important d'avoir des idées un peu claires là-dessus pour éviter les erreurs. Remarquons que toutes ces indulgences sont très faciles à gagner. Il y a énormément de prières qui nous sont offertes, qui nous obtiennent d'une manière extrêmement aisée ces indulgences. Il serait très coupable de ne pas en profiter. Et notamment les indulgences plénières qu'on peut gagner pendant les premiers jours du mois de novembre pour les âmes du purgatoire, eh bien, il faut en profiter. Surtout pour ces pauvres âmes qui n'ont absolument aucun moyen de se secourir, de soulager leurs souffrances, eh bien, elles attendent de nous qu'on prenne ces moyens très aisés pour les soulager. Alors, en conclusion, soyons vraiment ardents pour prier pour ces pauvres âmes. C'est souvent pour nous un devoir de justice, notamment pour tous ceux qu'on a connus ici-bas, qui sont morts et qui peut-être sont dans les flammes du purgatoire. Tous ceux qui nous ont fait du bien sur cette terre, eh bien, on doit compenser ce bien qu'elles nous ont donné ici-bas. Par nos prières et les indulgences qu'on gagne, par les messes qu'on fait dire, pour elle ensuite. Et remarquons, une dernière pensée pour nous encourager, que cela nous est à nous-mêmes très profitable, parce que, eh bien, sauf grâce exceptionnelle, par exemple celle du martyr, eh bien, nous serons un jour, nous aussi, dans ces flammes. Et à ce moment-là, eh bien, nos meilleurs et nos plus efficaces, nos plus fidèles intercesseurs seront ces âmes qu'on a délivré maintenant grâce à nos prières. Et bien que Notre-Dame nous pousse à avoir pitié de ces âmes qui sont ses enfants et porte nos prières à Dieu pour leur donner une efficacité toute particulière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.